Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Dans notre précédent entretien, tu disais, tu avais une phrase qui me semble importante. Miracles et prodiges, puisque nous faisions la distinction dans des miracles, prodiges et signes qu'accomplit Jésus, en disant que ce sont des modalités différentes de l'action de Dieu. Mais tu disais, miracles et prodiges ont besoin de trouver leur signification, qu'on exprime leur signification. Et le numéro 548 du catéchisme précise bien une chose qui est évidente, mais qui mérite bien d'être redite. Tous ces miracles, prodiges, et donc ce qui va trouver la signification, ces signes, peuvent être occasion de chute. L'article dit cela. Ils ne veulent pas satisfaire la curiosité et les désirs magiques. Et on voit bien dans l'Évangile, à certains moments, Jésus voit une curiosité malsaine qui est surtout un manque de foi, une incapacité à croire. En fait, les miracles servent d'abord ceux qui croient d'une certaine façon. On va voir le miracle et on va le comprendre, on va en sentir la signification. Parce qu'on croit, on est déjà dans une attitude de confiance en celui qui va faire quelque chose. Et ce n'est pas de la curiosité et des désirs magiques qui vont faire grandir la foi en réalité. Malgré ces miracles si évidents, Jésus est rejeté par certains, dit l'article, et on l'accuse même d'agir par les démons. Je pense que c'est important de repérer cela, que cette curiosité n'est pas de bonne aloi et nos désirs magiques. Sommes-nous déjà dans une attitude de foi? Il y a des tas de signes finalement qu'on ne va pas lire parce qu'on n'est pas disposé à ça à ce moment-là, mais peut-être aussi parce qu'en fait on n'est pas croyant.
Oui, le bon exemple c'est Hérode lorsque Pilate est en train de recevoir Jésus en vue de le condamner, qu'il hésite et il l'envoie à Hérode. Et on dit dans l'Écriture que Hérode est très joyeux de voir Jésus parce qu'il veut lui faire quelques prodiges. Donc il y a une sorte de curiosité malsaine vis-à-vis de Jésus qui attire parce qu'il a entendu parler de lui, des miracles qu'il a fait en Galilée, et il aimerait en voir un pour lui tout seul, dans le fond. Et on comprend très bien que l'aspect, je dirais, très grand des miracles et de faire des miracles peut intéresser quelqu'un pour le seul fait de faire les miracles. Comme Simon le magicien au début de la prédication des apôtres, saint Paul se heurte à cet homme qui essaye d'acheter à Paul ce pouvoir parce qu'il trouve ça très intéressant par rapport à ses propres intérêts financiers et autres, son honneur, sa grandeur, etc., sans voir que Paul fait tout cela gratuitement au nom du Christ. Et saint Thomas note bien par rapport au fait de faire des miracles que c'est quelque chose de très grand, bien sûr, mais il ajoute qu'il est plus grand de vivre selon la vertu. Parce que ces miracles ne sont que des dispositions pour aller, comme Dieu a dit très bien, vers la foi et vers la vie saine, une vie vertueuse. Et donc Jésus converti par l'intérêt que suscitent les miracles en vue de ce royaume qui va être un royaume de justice, un royaume de vertu, un royaume de foi, d'espérance et de charité. Et donc on comprend très bien que le péché peut essayer de s'infiltrer, je dirais, dans ce passage, de faire des miracles à vivre selon la vertu. Et on peut rester seulement sur cet intérêt. Et parfois, des groupes, dans le fond, évangéliques ou charismatiques, ont trop insisté sur l'aspect de faire des miracles et en ont oublié que le but, c'était de vivre selon la foi, l'espérance et la charité, dans le fond. Et du coup, ont un peu manqué l'essentiel. Et c'est là qu'est le danger, et c'est pour cela que il faut être prudent, puisque le démon peut essayer de s'infiltrer en proposant des intérêts qui ne sont pas aussi transparents que les apôtres l'ont réalisé en faisant des miracles.
Oui, oui. Cette génération demande des signes, mais en fait de signes, ils n'auront que le signe de Jonas, dit Jésus à un moment. Il faut s'en remettre à la personne qui est envoyée par Dieu, il faut reconnaître déjà que Dieu agit dans l'autre, et ça va renforcer la foi et ça va faire agir. Et c'est ce que tu dis, passer des miracles à la vertu.
Voilà, et dans le fond, c'est pour cela que, de temps en temps, parmi les miracles, il y a des exorcismes. Il faut chasser le démon, c'est-à-dire celui qui s'infiltre dans ses appétits de grandeur, comme les trois tentations de Jésus au désert, que nous avions médité une autre fois, où il essaye d'attirer dans le fond, ses attraits mauvais, et il faut s'en débarrasser par des exorcismes. De fait, on constate dans l'histoire de l'Église qu'il y a différentes formes d'infestation du démon. Il y a parfois seulement des oppressions, une personne se sent assiégée par des mauvaises pensées ou par des choses néfastes. De l'oppression, on peut passer à une obsession, et d'une obsession à une véritable possession. Et c'est les cas les plus graves qui demandent à ce moment-là une libération, je dirais, avec la prière et le jeûne, par des personnes qui sont exercées à ce charisme et à cette fonction, dans le fond, dans l'Église. C'est plus même qu'un charisme, c'est une fonction, un ministère que l'évêque, en sa plénitude, je dirais, de représentant du Christ, possède déjà, mais souvent qu'il délègue à un prêtre pour qu'il puisse, avec les moyens reconnus par l'Église, chasser l'œuvre du diable qui a parfois attiré quelqu'un à avoir des pouvoirs, à avoir des capacités miraculeuses, à avoir des choses un peu en dehors du commun, où il y a une exaltation et quelqu'un est pris au piège, dans le fond, de ces aspects démoniaques, il s'est fait prendre. Et il faut vraiment le délivrer. C'est une œuvre de charité. L'exorcisme est dans l'Église une des œuvres de charité.
Eh oui. Je trouve, donc, en parlant de cela, tu peux te référer au 550, là, et j'aime beaucoup cette phrase, la venue du royaume de Dieu et la défaite du royaume de Satan. La défaite du royaume de Satan, c'est déjà nous placer dans le monde, comme il y a Satan qui fait œuvre, mais il est défait d'avance, et la venue du royaume de Dieu, la venue de du Christ qui est cette expression même du royaume de Dieu, dit que le Satan est défait. De même que important aussi au 549, par les miracles que fait Jésus, donc en libérant certains hommes des maux terrestres, de la faim, de l'injustice, de la maladie et de la mort, dit l'article 549, Jésus a posé des signes messianiques qui disent que le Messie est bien là. Mais, précision est faite, il n'est cependant pas venu pour abolir tous les maux ici-bas, ce qui pourrait être notre rêve si tous les maux étaient abolis, mais pour libérer les hommes de l'esclavage le plus grave, de plusieurs esclavages, mais le plus grave est bien celui du péché, dit l'article, qui les entrave dans leur vocation de fils de Dieu et cause tous leurs asservissements humains. C'est-à-dire qu'il y a une manière, effectivement, d'être avec ces maux qui ne peuvent pas disparaître comme cela, mais qui nous font être plus grands que le mal, et puis victorieux du péché par le Christ qui nous a sauvés.
Oui, c'est une des raisons d'ailleurs de l'incarnation, cette défaite du royaume de Satan. La première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 8, le dit bien, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc c'est vraiment une raison de l'incarnation qui nous montre que Jésus est venu rétablir l'homme dans sa liberté. C'est pour la liberté de l'homme que le Christ nous a libérés, dit saint Paul au début du chapitre 5 de l'épître aux Galates. Et nous comprenons bien que Jésus va nous laisser cependant des maux, des difficultés, la faim, la maladie, la mort, mais au-dedans de cette réalité humaine que lui-même a vécue, il va nous proposer cette main tendue pour que ces difficultés, ces souffrances ne soient plus une occasion de chute et de refus de Dieu. Et d'une certaine manière, va nous permettre de dépasser ces injustices, ces maux, pour rester dans le fond libéré des asservissements humains que ceci provoque quand on est trop rivé sur nous-mêmes. Donc Jésus propose toujours une sorte de dépassement d'un règne qui se passe du haut de la croix, comme dit la fin du numéro 550, Dieu a régné du haut du bois. Eh oui. C'est très beau, c'est-à-dire c'est pas un règne, je dirais, facile, c'est un règne par un dépassement. Et nous comprenons bien que l'enjeu est grave, puisque beaucoup se laissent prendre souvent dans les pièges du démon, comme l'explique très bien tout le numéro 550 de ce catéchisme. Le royaume de Dieu s'oppose à l'emprise des démons. Nous avons besoin de la force de la croix. C'est par la croix du Christ que le royaume de Dieu est définitivement établi.
Oui, c'est vrai que cette phrase « Dieu a régné du haut du bois » qui est tirée d'une hymne, le Vexilla Regis, qu'on chante au moment de la Semaine Sainte dans le Triduum Pascal. Dieu a régné du haut du bois et l'objectif même de l'homme, là, c'est réaliser la vocation de fils de Dieu.
Merci.